Nous lisons donc dans le Deutéronome au chapitre 9, « Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais, et dont tu as entendu dire « Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak ?» Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Je m'arrête là. Voilà. Un peuple qui appartient à Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est choisi ce peuple, la nation juive, la nation d'Israël, prêt à entrer dans le pays de la promesse. La parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être un jour, on développera un peu plus justement ce verset parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment bien compris lorsqu'il est dit qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Même quand c'est Dieu qui bénit, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficulté. Pourtant, Dieu bénit. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Là, ils étaient prêts à entrer donc dans le pays de la promesse et Dieu leur dit à travers Moïse, c'est toi qui vas passer le Jourdain. C'est toi, c'est-à-dire que nous avons dans la vie de tous les jours, en fonction de nos besoins, en fonction de nos obligations, nous avons des choses à faire, des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Il ne nous suffit pas de prier pour que les choses se fassent. Il faut prier, se confier en Dieu, chercher la direction de Dieu, mais il faudra bien à un moment donné ou à un autre que nous aussi, nous agissions. Il faudra que nous fassions ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc il y aura toujours aussi notre part à faire. Et ils avaient leur part à faire. Ils allaient entrer dans ce pays, mais il faudrait bien qu'ils se mettent en marche. Il fallait bien qu'ils entrent. Et il fallait aussi qu'ils aillent combattre. Pourtant Dieu leur dit, tu vas passer le Jourdain et tu vas te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Mais seulement, en continuant la lecture, nous allons voir que Dieu quand même était obligé de marcher devant eux, de combattre avec eux, parce que d'eux-mêmes, s'il avait fallu qu'ils y aillent seuls, ces nations qui occupaient le pays de Canaan, ces peuples du moins, étaient plus puissants qu'eux. D'un point de vue technique, stratégique, au niveau de l'armée et au niveau même des hommes, il est dit que c'était les fils d'Anak, c'était les descendants d'Anak, c'était les Anakim, c'est-à-dire c'était des géants, comme Goliath. C'était donc des géants. Leur ville était fortifiée jusqu'au ciel. Un peuple de grande taille, grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais, ils les connaissaient. Puisqu'effectivement, ils avaient, dans toute leur histoire, été confrontés notamment, et pas seulement, mais à Goliath, mais pas seulement à Goliath. Ils avaient aussi dû combattre d'autres géants. Donc, ils savaient, ils connaissaient l'existence de ces géants. Et Dieu leur dit qu'il va marcher devant eux, parce que si Dieu ne marchait pas devant eux et si Dieu ne combattait pas pour eux, ils n'auraient pas pu, d'eux-mêmes, avec leur propre force, vaincre donc ces géants et qui étaient plus puissants qu'eux. Cela nous rappelle qu'un jour, Jésus nous a dit que son Père est le vigneron, que lui, il est le vrai cep, que nous sommes les sarments. C'est dans Jean, chapitre 15, les versets 4 à 5. Il nous exhorte à demeurer en lui. Il nous dit que si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Et il nous précise ceci, et on peut faire le lien avec ce qui se passe là où le peuple d'Israël devait conquérir le pays de Canaan. Il nous dit que comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, le cep c'est Jésus-Christ, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans l'intervention de Dieu, sans la promesse de la présence de Dieu combattant pour ce peuple, afin qu'il puisse conquérir Canaan, il n'aurait pas pu le conquérir. Il n'aurait pas pu combattre ces géants qui étaient plus forts qu'eux. C'est pour cela que Dieu leur dit, faisant le lien avec ce que nous venons de lire en Jean 15, le vrai cep et les sarments que nous sommes, il dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi » au verset 4, « ne dis pas en ton cœur, ne dis pas c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. » Et Dieu leur dit clairement « Non, ce n'est pas à cause de ta justice, c'est à cause de leur méchanceté. C'est à cause de leur méchanceté que j'ai choisi de chasser ces nations, ces peuples de ce pays pour te l'offrir, pour te le donner, ce pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas à cause de ta justice, mais c'est à cause de leur méchanceté. Au verset 5, il dit « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. » Et c'était aussi la confirmation et la réalisation de la promesse faite au père, au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Et le verset 6, il insiste, on voit bien que Dieu insiste. Quand Dieu répète plusieurs fois une chose, il veut que nous puissions vraiment assimiler ce qu'il nous dit. « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays, pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » Et là, cela a trait à leur histoire où malheureusement, à plusieurs reprises, ils n'ont pas fait la volonté de leur Créateur. Le titre de mon message, c'est « Une idée de justice ». Une idée de justice. Je n'ai pas donc cherché à reformuler ce titre, c'est comme ça que c'est venu à mon esprit, je l'ai gardé tel quel, une idée de justice. J'ai le privilège d'entrer chez moi à midi, tous les jours. C'est vraiment une grâce. J'habite à deux pas de mon activité professionnelle. Et avec ma femme, nous nous réjouissons de ce privilège que nous avons. Nous avons tout à côté, vraiment. C'est très facilitant pour l'organisation de la vie de tous les jours, pour les enfants, pour les emmener à l'école, les récupérer à l'école, pour le travail de mon épouse, pour moi-même, pour les besoins courants, pour aller faire les courses et autres démarches administratives. Vraiment, nous avons tout à côté. Et donc, je bénéficie et j'en profite. Merci Seigneur de ce privilège. Et j'entre manger tous les jours chez moi, à midi. Et il m'arrive donc, pendant que je déjeune, de regarder les actualités. C'est là que je profite. Je regarde les actualités. Et lorsque j'ai fini de regarder les actualités, si j'ai encore le temps avant de repartir au travail, je bifurque un peu et puis je zappe et puis des fois je regarde une émission sur des affaires criminelles. Et dans ces affaires criminelles, où quelquefois vraiment les journalistes ils présentent cela de manière vraiment qualitative et ils décrivent bien les histoires, des choses qui se sont faites. Et lorsqu'on regarde par rapport à certaines personnes qui ont commis de graves erreurs, on regarde les verdicts des juges, quelquefois, on trouve qu'il y a vraiment un décalage énorme entre ce que ces personnes auraient dû subir et le verdict et le jugement qui leur est accordé. On voit à travers vraiment certains jugements, certains verdicts, beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice surtout pour les victimes, pour ceux qui sont des victimes. Il y a vraiment des fois des décalages et à cause de ces injustices, justement, des fois les personnes ressortent de prison alors qu'elles auraient dû peut-être dû rester un peu plus longtemps et en sortant de prison, elles récidivent et en récidivant, elles vont commettre encore d'autres actes aussi délictueux que précédemment, des fois des meurtres, hein, des meurtres, des viols et d'autres choses de ce type-là. Et on se dit, voilà, c'est vraiment une injustice parce que si cette personne avait purgé une véritable peine qui corresponde vraiment à ce qu'elle a fait, eh bien, cet enfant, cette femme, cette autre personne n'aurait pas subi, justement, l'injustice du fait que la personne n'a pas vraiment subi ce qu'elle aurait dû subir. On voit là, donc, que c'est de l'injustice dans certains cas d'affaires criminelles. Et beaucoup de personnes ont soif de justice. Beaucoup de personnes dans le monde entier, que ce soit des chrétiens, des non-chrétiens, elles ont soif de justice. D'ailleurs, Dieu lui-même, Jésus, a dit en Matthieu 5, 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » À quel moment seront-ils rassasiés ? Ce n'est pas maintenant. Il ne parle pas de maintenant lorsqu'il dit cela. Lorsqu'il dit qu'ils seront rassasiés, il parle du fait que tous ceux qui seront sauvés dans le royaume de Dieu jouiront pleinement de la véritable justice divine parce que malheureusement pour ceux qui rejettent Dieu, il y aura des jugements, il y aura des condamnations. Et ceux qui subissent des injustices sur la terre aujourd'hui, eh bien Dieu leur promet que dans son royaume, là ils seront rassasiés de justice. Ils seront rassasiés sur la terre. Ils subissaient des injustices, mais dans le royaume de Dieu, ils seront rassasiés de la justice divine. Parce que le jugement de Dieu arrive sur le monde pour ceux qui ne croient pas. Jean 3, 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé », c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est déjà jugé. Parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a donc un jugement pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a un jugement, c'est un fait indéniable. Et cela, on ne pourra pas l'empêcher. Cela s'accomplit et s'accomplira, car c'est Dieu qui l'a déclaré. Il y a un jugement pour ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a une condamnation pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il y a donc une condamnation pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne veulent pas de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et nous, nous pouvons nous réjouir, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui forment le corps de Christ, l'Église de Jésus, eh bien, peuvent se réjouir parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ce qui veut dire que par rapport à ce que je viens de citer, Dieu ne nous a destinés ni au jugement, ni à la condamnation. Et ça, c'est un sujet de grande réjouissance pour ceux qui ont réellement Jésus dans leur vie. 1 Thessaloniciens 5, 9, il est dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » que le nom de l'Éternel soit honoré, célébré et glorifié, car nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce salut, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant que le salut est entré dans notre vie. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si quelqu'un qui est en Christ meurt ce soir, parce que cette personne était en Christ au moment de mourir, il n'y a aucune condamnation et aucun jugement sur sa vie. Elle entre dans la présence et dans la gloire de son Dieu. Et lorsque le diable essaie de nous faire perdre notre joie en nous faisant oublier ce fait indéniable, eh bien, nous pouvons proclamer cela. C'est une vérité, une promesse authentique du Christ, Jésus-Christ. Alors, on a vu que lorsqu'Israël allait entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur dit que ce peuple de haute taille, grande haute taille, qui a bâti des villes fortifiées, qui s'élève jusqu'au ciel, il leur dit c'est à cause de leur méchanceté qu'il va les chasser pour offrir à son peuple ce bon pays, à cause de leur méchanceté. Mais on pourrait se poser la question suivante, Dieu ne pourrait-il pas leur faire grâce à ce moment-là? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu, il n'avait pas encore accompli sur la croix le sacrifice que nous connaissons, qui lui a coûté, ce sacrifice qui nous permet d'être là ce soir et d'avoir en nous cette espérance de la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas fait grâce à ce moment? Il dit qu'ils sont méchants et c'est pour ça qu'il va les chasser. Mais pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi à leur égard? Dieu ne les aimait-il pas? Il y a-t-il des personnes que Dieu n'aime pas et que Dieu aurait condamnées d'avance? Des personnes qui n'auraient pas la possibilité, elles aussi, d'être sauvées. Est-ce vraiment le Dieu que nous croyons, est-il en qui nous croyons, est-il ainsi? La parole de Dieu dit qu'il ne fait point acception de personne. Qu'en toute nation, celui qui pratique la justice lui est agréable. Dieu aime tous les hommes. Et même si à l'époque où ça se passe, Jésus n'était pas encore réellement venu physiquement sur la terre en le sens de la personne du Christ, Jésus, mais Dieu aimait ces hommes qui vivaient à cette époque. Dieu les aimait. Dieu ne fait pas de différence. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit perdu. Il a créé l'homme pour que l'homme le rencontre, le connaisse, ait une relation intime avec lui et que l'homme soit sauvé. Pourquoi Dieu a-t-il agi à l'égard de ces hommes de cette manière? Alors nous savons que la cause, c'est la méchanceté de ces personnes. Regardons ce que nous dit Genèse 3, 22. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, lorsque l'homme a péché, et que malheureusement, justement, le péché a créé cette séparation entre Dieu et l'homme, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, Genèse 3, 22, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est Dieu qui dit ça. Il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Et ça, c'est intéressant qu'il dit l'un de nous. Dieu est un et indivisible, unique, un seul Dieu. Mais il dit l'un de nous. Il ne dit pas l'homme est devenu comme moi. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que là, il fait ressortir son identité trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Christ Jésus et Saint-Esprit. L'homme est devenu comme l'un de nous. Et ensuite, il dit, dans quel sens l'homme est-il devenu comme l'un de nous? Pour la connaissance du bien et du mal. L'homme avait une certaine innocence, Dieu l'avait préservé et l'avait créé avec une certaine innocence, dans la pureté et la sainteté. Mais quand le diable a su tromper l'homme, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous Et comment? Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ce qui veut dire que cette innocence que l'homme avait, vis-à-vis du mal surtout, cette innocence, elle est sortie de l'homme, elle a quitté l'homme. Maintenant, l'homme savait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et même si Jésus n'était pas encore venu à cette époque sur la terre, l'homme savait très bien, tout homme savait ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsqu'une personne fait un acte, qu'elle soit à Christ ou qu'elle ne soit pas à Christ, et même si sa vision est un peu embrouillée parce que le diable l'aveugle dans sa conception de la vie, mais au fond de la personne, quand une personne agit, elle sait si elle fait du bien, elle sait si elle fait du mal. Regardez les enfants, et je peux vous dire que j'en fais l'expérience à la maison. Quand les enfants savent qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, que maman et papa a déjà dit non, que font-ils? Dans beaucoup de cas, ils se cachent. Ils essaient de faire en sorte que les parents ne voient pas ce qu'ils font. Et quand on vient leur demander, « As-tu touché à telle chose ?»« Ah non, non, je ne sais pas. »« T'es sûr que ce n'est pas toi qui as touché à ce que j'avais posé ici ?»« Non, papa. » »« Non, maman, ce n'est pas moi. » Et des fois, ma fille, la plus petite, la dernière, elle fait des choses extraordinaires, incroyables. Elle fait en sorte de ne pas voir ce qu'elle fait. Elle court vite, elle prend un truc, elle court. « Emmanuel, viens, où es-tu ?» Comme une sunbot, elle part. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la connaissance du bien et du mal. Et ces nations, elles étaient méchantes, non pas que Dieu ne les aimait pas, parce que ces hommes savaient, même si leur vision était embrouillée, c'est vrai, mais au fond, il y a au moins une base qui est là, et toute personne sait si elle fait quelque chose qui est bien ou si elle fait quelque chose qui est mal. Alors, il y a de ceux sur cette terre, chrétiens ou non chrétiens, qui s'attachent à une idée de justice et d'autres qui s'attachent à la véritable justice. Nous, nous faisons partie de ceux qui s'attachent à la véritable justice et nous avons intérêt à y demeurer. C'est là la véritable justice en Christ Jésus. Et d'autres s'attachent à une idée de justice. Alors, qu'est-ce qu'une idée de justice? Une idée de justice, c'est ce qui paraît juste, mais qui ne l'est pas. Ça paraît juste. C'est pour cela que beaucoup de personnes, des fois, pensent faire le bien en faisant le mal. C'est pour cela aussi qu'il est dit qu'à un moment donné, nous y sommes, ça fait des années, les hommes appelleront le bien mal, et le mal bien. Même quand une chose est mal, leur vision de la vie a été tellement manipulée par le diable que les personnes finissent maintenant par trouver que ce qui est mal est bien. Et ce qui est bien est mal. Les gens inversent donc les rôles. Une idée de justice, confondre le bien avec le mal. Et nous savons qu'il nous arrive ainsi, donc des fois, de nous tromper. Au niveau des choix que nous faisons, nous croyons qu'une chose est juste et finalement, à l'arrivée, nous constatons par les résultats que ce n'était pas forcément le bon choix, ce n'était donc pas ce qui était juste de faire. Et même vis-à-vis de Dieu, il nous arrive des fois, vis-à-vis de Dieu, eh bien, de considérer que Dieu n'est pas juste. C'est un non-sens, n'est-ce pas? Mais cela est vrai. Il nous arrive des fois de considérer que Dieu n'est pas juste. Quelquefois, quand nous sommes dans une situation conflictuelle, nous aimerions que Dieu agisse de telle et de telle manière. Vis-à-vis de notre adversaire, nous aurions souhaité que Dieu agisse d'une manière précise. Et nous prions des fois, il arrive que des chrétiens prient pour que Dieu agisse de telle manière. Et quand Dieu n'agit pas comme ils espèrent, ils trouvent que Dieu est injuste. Ils prennent leur désir pour la volonté de Dieu. Nous ne devons pas prendre nos désirs pour la volonté de Dieu. parce que nos désirs, à ce moment-là, ne sont que des idées de justice. Ça ressemble à la justice, mais ce n'est pas tout à fait la justice. En tout cas, pas la justice divine. Deutéronome 17 nous dit justement, lorsque Moïse avait reçu le soutien des anciens du peuple, parce que la charge du peuple était devenue vraiment trop lourde pour lui, il ne pouvait pas porter ce peuple, et là, donc, sous le conseil de son beau-père, Jéthro et des responsables, des anciens de chaque tribu seront désignés pour aussi l'aider à porter ce peuple-là, le peuple d'Israël. Et donc, il les exhorte, c'est Dieu qui les exhorte à travers Moïse, justement, à ne pas faire de différence entre les gens et à délivrer la vraie justice. Il leur dit, en Deutéronome 1:17, « Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. » C'est Dieu qui rend la justice. Nous ne devons pas l'oublier. Et ne pas donc considérer qu'il y a des fois où Dieu ne serait pas juste, c'est impossible. Dieu est toujours juste dans tout ce qu'il fait, parce que c'est un être parfait. Comme c'est un être parfait, s'il était injuste, cela donc signifierait qu'il n'est pas parfait. Mais Dieu est parfait. Il ne peut donc pas commettre d'injustice, car c'est Dieu qui rend la justice. Avant que se termine son épreuve, Job aussi, il a été déçu du fait que Dieu ne lui rende pas justice. Job 19, 6, 7, il dit, « Sachez-le, alors c'est Dieu qui me poursuit. » Il accusait Dieu. Il ne savait pas ce qui s'était passé dans le ciel et Dieu ne le lui avait pas révélé de ce qui s'était passé, de cet enjeu, du fait que le diable aussi était venu donc se présenter là où se réunissaient les fils de Dieu et que le diable avait défié Dieu à propos de Job, mais Job ne le savait pas tout ça. Et comme il comprend pas ce qu'il est en train de vivre, il dit à ses amis qui sont là venus, qui sont venus le réconforter, mais qui dans la réalité l'accusent, il dit, sachez-le, alors que c'est Dieu qui me poursuit. Ce n'était pas Dieu qui le poursuivait, mais il ne le savait pas. Il dit, c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. À qui implorait-il justice ? À Dieu. Quand il dit qu'il implore justice, c'est à Dieu en priorité. Et point de justice. En Job 27, 2, il dit, il prit la parole à nouveau sous forme sentencieuse, comme Jérémie, vous voyez, comme on parle des lamentations de Jérémie. Et là aussi, c'est une sentence. Donc, il est là un peu en train de se lamenter, comme Jérémie. Une sentence, il dit, Dieu me refuse justice. Dieu qui me refuse, pardon, justice est vivant. Il dit, Dieu lui refuse justice. C'est comme ça qu'il conçoit les choses par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il croit que c'est Dieu qui lui refuse justice. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Voilà. Il est en train donc d'accuser Dieu d'être le responsable de ses souffrances et de ses malheurs. Cela ne nous arrive-t-il pas à certains moments? Ou cela n'avons-nous pas à certains moments accusé Dieu d'être responsable de nos malheurs et de nos souffrances? Dieu ne nous a pas créés pour nous infliger des souffrances. Et quand il permet des épreuves, c'est parce qu'il veut nous emmener plus loin par rapport à ses desseins sur notre vie. Job dit encore en 43, il dit, et l'Éternel, pardon, va répondre à Job. C'est Dieu qui va parler à Job. Et Dieu lui dit, du milieu de la tempête, « S'interrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantirais-tu jusqu'à ma justice ?» Et là, Dieu lui pose la question. Lui, Job, il dit, « Dieu me rend pas justice. » Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu serais prêt à anéantir ma justice? Ça veut dire qu'il n'avait pas compris la justice de Dieu à ce moment-là. Anéantirais-tu jusqu'à ma justice? Et Dieu ajoute en lui disant, me condamnerais-tu pour te donner droit? C'est ce qu'il faisait, Job. Il accusait Dieu d'être à l'origine de sa souffrance. Pourtant, Dieu veut que tous les hommes connaissent sa justice. Comme nous, ce soir, Dieu veut que tous les hommes connaissent sa justice. Pierre, lorsqu'il a fait son discours, donc pour annoncer aux hommes que ce Jésus que les Juifs avaient crucifié, c'était bien lui le Messie promis, c'était bien lui le Sauveur du monde, c'était bien lui qu'on attendait, que les prophètes avaient annoncé. Il est dit donc que cette promesse en Actes 2, 39, 41, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire en dehors de la nation juive, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est pour tous les hommes. Ce n'était pas seulement pour les Juifs. Jésus est venu pour tous les hommes, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et il est perversé, il est dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. » Ceux qui acceptèrent. Il y a de ceux qui acceptent et qui ont accès à la justice divine, à la vraie justice, et il y a ceux qui n'acceptent pas. Et comme ils n'acceptent pas la justice de Dieu, ils demeurent avec une idée de justice, une apparence, un semblant donc de justice. Jésus-Christ est notre justice. C'est lui qui représente la justice divine. C'est lui notre justice. Jésus, Romains 3, 21-22, il nous dit « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, sans la loi. » C'est-à-dire que la loi, il est dit, la loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus, annonçaient Jésus la justice de Dieu. C'est lui qui est la manifestation de la justice de Dieu. En Romains 3, 21-22, 1 Corinthiens 1, 30 nous dit « Ainsi, quand Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ est notre justice. Il est aussi, est-il dit, il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Celui qui se glorifie en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit devant Dieu. C'est Jésus-Christ qui a été fait justice pour nous. C'est la manifestation de la justice de Dieu en notre faveur. Si nous voulons nous glorifier, il est dit, nous ne pouvons nous glorifier qu'en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que je dois me pavaner et faire étalage de mes talents, de mes compétences. Non. Que celui qui se glorifie en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que je dois montrer que je chante mieux qu'un autre, que je m'exprime mieux qu'un autre, que je dessine mieux qu'un autre, que je suis fort en mathématiques mieux qu'un autre. C'est pas ça, se glorifier en Jésus. C'est simplement déclarer la grâce, l'amour, la faveur de Dieu sur ma vie. Cela concerne le salut que Jésus nous offre par son sacrifice à la croix. Se glorifier en Jésus, c'est se glorifier du fait que nous sommes rachetés. Rachetés du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Que nous bénéficions de sa grâce. Que Jésus a payé le prix pour nous, que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu a changé notre identité, il a changé le cours de notre vie, il a donné une nouvelle direction à notre vie. C'est ça, se glorifier en Jésus. Que celui qui se glorifie en Jésus. Et nous devons nous glorifier en Jésus. C'est un témoignage de se glorifier en Jésus. Parce que cette justice, elle est de Jésus-Christ lui-même. Elle vient pas de nous. Se glorifier en Christ, c'est dire ce qu'il a fait pour nous. C'est dire ce qu'il fait pour nous. C'est dire combien il est bon pour nous. Combien il est miséricordieux. Combien il nous fait bénéficier de ses grâces excellentes. C'est ça, se glorifier en Jésus-Christ. parce que la justice vient de Dieu. Le psaume 89, 14 nous dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La vraie justice, elle nous a été révélée et c'est quelque chose que nous devons donc apprendre. Et ça, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre qu'il nous faut apprendre la justice de Dieu. Nous devons apprendre la justice. Et quand nous agissons dans la vie de tous les jours, nous devons demander à Dieu, montre-moi si j'agis avec justice. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que tu approuves? Est-ce que tu agrées ce que je fais? Ce que je pense? Ce que je dis? Est-ce juste, Seigneur? Révèle-moi, fais-moi comprendre. Est-ce que c'est juste? Michée 6, 8 dit, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel demande de chacun de nous, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice. Mais il est dit, on t'a fait connaître. Donc si on nous fait connaître quelque chose, nous devons l'apprendre. Cela veut dire que ça a été révélé. Dieu nous l'a révélé et nous devons l'apprendre. On t'a fait connaître. Et nous devons ensuite l'enseigner aux autres. Enseigner aux autres la justice de Dieu. Daniel 12, 3, il dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. » Et à perpétuité, ceux qui auront enseigné la justice. Nous devons pratiquer la justice, mais nous devons l'enseigner aux autres. Nous devons l'enseigner. Nous devons enseigner, annoncer ce qui est juste. Ça, c'est la vraie justice. Parce qu'il y a une idée de justice qui n'est pas la vraie justice. Et je termine dans le psaume 23 que nous connaissons bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au verset 3, il est dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Ce n'était pas à cause de David, c'est le roi David qui s'exprime ici. Ce n'était pas à cause de lui-même, David. À cause de la réputation de Dieu, cette réputation sur laquelle Dieu devait veiller sur la vie de son serviteur David, à cause de ton nom et du fait que David cherchait la face de Dieu, alors Dieu le conduisait dans les sentiers de la justice. Et nous aussi, nous devons donc désirer ardemment que Dieu nous conduise dans les sentiers de la justice, car c'est la justice est la base même de son trône. Le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Tout ce que Dieu fait est juste. S'il nous est arrivé à certains moments de penser que Dieu n'était pas juste, alors nous nous sommes trompés, mais Dieu ne nous en veut pas pour autant. Dieu veut nous enseigner, nous emmener plus loin. Même si nous avons à un moment donné pensé que Dieu était injuste, Dieu ne nous en veut pas. Il veut seulement nous révéler que non, il n'est pas injuste. C'est un Dieu de justice parce qu'il est parfait. Comme Job, vous avez vu à la fin, Job a été béni au-delà de tout ce qu'il avait eu précédemment. Et maintenant, il avait grandi dans sa relation avec son Dieu, dans le service qu'il pouvait donc assurer pour Dieu. Il avait grandi. Il avait compris, il avait connu, il avait fait un bond extraordinaire dans tout ce qu'il avait pu connaître de Dieu jusqu'à maintenant. Et c'est ça que Dieu veut. Lorsque malheureusement les choses ne sont pas toujours faciles, Seigneur, conduis-nous dans les sentiers de la justice. Tu es ce Dieu qui est juste. Tu es ce Dieu qui est parfait. Tu es ce Dieu qui est excellent. Il est vrai que nous ne comprenons pas toujours comment tu t'y prends pour faire les choses. Nous ne connaissons pas toujours. Toi, tu connais la fin d'une chose avant son commencement, mais nous, nous ne le connaissons pas forcément. Nous avons besoin de ta révélation. Christ, aide-nous. Aide-nous afin que nous puissions nous souvenir que tu es notre justice. Et parce que tu es notre justice, tout ce que tu fais à travers nos vies sera toujours juste. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Christ, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Secours-nous encore ce soir, Seigneur. Et manifeste ta gloire dans nos vies. Toute la gloire t'appartient pour les siècles des siècles. Gloire à toi, Jésus.